Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Que perdons-nous pour Dieu ?» Mais en relisant, je me disais « Ah, je changerais bien le titre » finalement en me disant « Qui perd gagne ?» Qui perd gagne ? Et gagner, c'est toujours enthousiasmant. Hein, c'est vrai, hier soir on a emmené les enfants à la foire. Mon fils a gagné en tirant sur des ballons une petite chose qu'il a offert à sa sœur. Et on est content de gagner, hein, on aime gagner. Et dans le monde, tout le monde veut gagner. On se marche même les uns sur les autres parce qu'on veut gagner le meilleur. On veut toujours plus, gagner plus d'argent, gagner plus de gloire, plus de prestige, plus de reconnaissance, gagner plus de temps libre, plus de congés. Hein, on est content d'avoir plus de vacances. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à perdre ? Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre pour Dieu ? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour lui ? Et aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce que nous perdons pour Dieu ? Qu'est-ce que vous perdez pour Dieu en ce moment ? Dans la Bible, on voit plein d'hommes et de femmes qui ont été bénis par le Seigneur. Pour certains, ils ont été couverts vraiment de bénédictions sans nombre. On peut dire qu'ils ont gagné énormément. Plus proche de nous, quand on lit des témoignages, parfois de livres, on voit comment Dieu a agi. On se dit « Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait ?» Et quand je regarde le cas, je dis « Waouh, Seigneur, c'est aussi une bénédiction. Hein. Dieu nous a richement bénis. » C'est la bonté, la générosité du Seigneur. Mais ce que j'aimerais que l'on voit ce matin, c'est que la bénédiction que nous recevons, elle est souvent le fruit d'une perte. C'est parce qu'il y a eu une perte. C'est parce que certains ont accepté de perdre, alors il y a un enrichissement. Alors il y a un gain. Et c'est pas qu'on cherche le gain en lui-même, mais simplement le fait de perdre, sans se soucier du gain, on accepte, on veut perdre, et bien ça amène un enrichissement. Ça apporte un enrichissement dans la vie. Et finalement, celui qui perd, eh bien, il gagne. Nos pertes pour Dieu ou nos pertes en Dieu, elles sont donc en réalité des bénédictions. C'est des bénédictions. Peut-être ça fait mal parfois, mais il y a une bénédiction qui est derrière. Alors, qu'est-ce qu'on perd pour le Seigneur ? Je vous disais, naturellement, on n'aime pas perdre. Mais c'est l'attitude chrétienne, finalement, d'accepter de perdre. De ne pas vouloir gagner à tout prix. Dieu nous enseigne à accepter de perdre. Mais ça coûte. Il y a un sacrifice. Quand on perd, forcément, il y a un sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on perd pour Dieu ? Qu'est-ce que nous lui donnons ? Qu'est-ce que je perds ? On va voir plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui ont perdu pour le Seigneur, ou perdu par amour pour lui. Par ordre d'importance, on pourrait dire la première perte, c'est tout ce qui est matériel. Les possessions, l'argent, toutes ces choses-là. On voit que c'est ce que Satan a attaqué en premier dans la vie de Job. Il lui a pris ses troupeaux, ses possessions. On peut dire, c'est ce qui compte le moins. Hein, le matériel, les troupeaux, les possessions, les biens, les richesses. Pourtant, c'est quelque chose qui peut prendre vraiment énormément de place dans la vie d'une personne. Pour l'argent et les biens matériels, il y en a qui sont prêts à sacrifier beaucoup. Hein. Ils n'aiment pas le mot sacrifice, mais ils sont prêts à sacrifier. Dans l'ordre, on pourrait dire on sacrifie d'abord sa vie spirituelle quand on est chrétien. Parfois, à cause de la quête de toujours plus, hein, forcément. Après, on sacrifie sa santé. Et puis après, on est prêt même à sacrifier parfois sa famille. Et Dieu nous enseigne à accepter de perdre. Et particulièrement aussi, de lâcher parfois du matériel, des biens, des possessions. Je lisais ce verset. « Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. » Parfois, on se dit, mais le matériel, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Eh bien, la parole de Dieu a dit, c'est lié quand même. Hein. Les convoitises charnelles, de la chair, du matériel, ça fait la guerre à notre âme. Ça vient bien nous empêcher finalement de nous attacher au Seigneur et attacher notre cœur au ciel. Dans les évangiles, on voit l'histoire de Matthieu. Matthieu, collecteur d'impôts. Lequel était riche, très très riche, vraiment. Forcément, collecteur d'impôts pour Rome, il avait une grosse source de profit avec le bureau des payages. Il taxait les gens à chaque fois, et puis il donnait une partie pour Rome, il mettait une partie dans sa poche. Et Jésus lui a dit, suis-moi, accepte de perdre ta source de profit là et suis-moi. Et il a lâché. Il a fait le choix du Seigneur, il a lâché ce qu'il tenait. Après, c'était fini. Il n'y avait plus question de faire la fête avec les gens de mauvaise vie, avec ses copains publicains, là. C'était plus possible. Il ne pouvait plus jouir de tout ce qu'il avait alors qu'il était avant dans l'abondance matérielle. Mais quand on regarde bien Matthieu, on se dit, mais avec tout ce qu'il a perdu, quel est le gain qui est à côté? Est-ce que le gain ne vaut pas ce qu'il a perdu? Après avoir suivi le Seigneur, eh bien, il est devenu l'apôtre Matthieu, hein. Apôtre de Jésus-Christ, il nous a donné le premier évangile que vous avez dans votre Nouveau Testament. Il est devenu un canal pour la sainte parole de Dieu. C'est quelque chose, ça. Et aujourd'hui, eh ben, Matthieu, vous dites Matthieu l'évangéliste, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. S'il était resté un petit collecteur d'impôts, il aurait disparu. Voilà. On n'aurait jamais su qui il était. Il aurait complètement disparu. Il serait mort, certes, riche matériellement, mais terriblement pauvre spirituellement. Et c'est à ça qu'il faut penser. Quand on privilégie l'aisance matérielle, c'est souvent aux dépens de notre vie spirituelle. Forcément, ça prend tellement de place que le spirituel a de moins en moins de place. Hein. Au jeune homme riche, le Seigneur a dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. » Et bien sûr, Dieu ne nous dit pas à tous « Vendez tout ce que vous avez hein. ». Non. Ici, il voyait que cet homme était profondément attaché à tout ce qu'il possédait. Alors, il lui dit « Mais voilà, c'est trop rivé à ton cœur. Vends, lâche, cède et tu vas trouver un trésor dans le ciel. Tu seras enrichi de ma personne. » Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre pour Dieu ? Il y a un autre exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui n'a pas cherché à gagner à tout prix, il était prêt à perdre, c'est Abraham. À l'époque, il s'appelait encore Abraham. Il cheminait avec son neveu Lot, ils avaient des troupeaux, ils étaient riches, dans l'abondance, chacun avec leurs troupeaux et leurs bergers. Mais leurs bergers ont commencé à se quereller. Alors ils se sont dit, il n'est pas bon qu'on reste encore ensemble. Ils étaient sur une haute montagne et Abraham s'est tourné vers Lot. Et il lui a dit, « Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Là, vous avez deux attitudes finalement. Et Abraham, avant l'heure, a une attitude chrétienne, là. Il se dit, mais vraiment, c'est touchant, hein. Il a accepté de perdre sans rechercher le meilleur pour lui-même. Il s'est incliné, en quelque sorte, devant son jeune neveu pour le laisser choisir. Et bien sûr, pas forcément, mais en tout cas, le neveu a choisi ce qui lui paraissait le meilleur à ses yeux. Et quel est le résultat? Est-ce qu'Abraham a perdu? Juste après, vous savez ce que Dieu lui a dit? Il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, sa largeur, car je te le donnerai. C'est beau, hein? Il a accepté de perdre, voilà, il a eu une bonne attitude. Et Dieu l'a enrichi, il lui a donné, au-delà de toute espérance, infiniment plus. Parce que celui qui perd, il n'est pas vraiment perdant, il finit par gagner. Quand vous lâchez, avec Dieu vous êtes gagnant. Dans le monde, on se marche les uns sur les autres. Mais avec le Seigneur, c'est pas pareil. Apprendre à céder. Apprendre à lâcher et faire confiance au Seigneur, parce que c'est ça, on lâche et je fais confiance au Seigneur. Et Lot, lui, il voulait gagner. Eh bien, le résultat, c'est qu'il a perdu. Il a perdu. Il a beaucoup perdu. Parce qu'il est allé dans une région qui était belle. Certes, elle était fertile, elle était verdoyante, etc. Mais il est allé aussi dans une région qui était complètement pervertie, débauchée, terrible. Sodome et Gomorre. Vous savez, on a des mots hein, dans la langue française qui prennent leurs origines dans la parole de Dieu. Les gens ne le savent même pas. Ils les emploient. Mais Sodome, hein, eh ben, c'était une ville qui était terrible. Et il a fini par tout perdre dans la plaine du Jourdain. Il a perdu sa femme, attachée à Sodome. Il a perdu ses filles, qui sont devenues impures, hein, comme étant un inceste. Lot y est entré riche, avec des troupeaux, des serviteurs, sa famille, et il est ressorti, on peut dire, seul, pauvre, misérable. Misérable. Et c'est souvent comme ça. Quand on pense qu'à soi, à son profit, à son gain, à son confort personnel, eh bien, on finit par perdre. Au final, on est perdant. Alors, ça fait réfléchir sur l'importance d'être toujours prêt à perdre pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre pour le Seigneur ? Quel bien, quel argent, quel confort matériel. Il faut savoir, ce que l'on perd, on ne le perd pas vraiment. Alors peut-être ce n'est pas ici-bas, parfois c'est dans l'éternité, mais il y a toujours un gain. Une deuxième chose qu'on peut perdre, c'est l'image que l'on a entretenue jusqu'à présent. Alors je m'explique, par exemple sa notoriété ou sa popularité auprès des autres. Parfois, on va soigner son image hein, pendant des années. On veille à ce que les autres pensent de nous. On n'aimerait surtout pas qu'ils puissent penser que quand même, on est en train de faire une démarche où on est attaché à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Je vous ai dit, hein, ce mot-là, Jésus-Christ, c'est un mot qui dérange. Qu'on l'aime, qu'on vit pour lui. Je pense notamment aux jeunes qui sont particulièrement sensibles à ça. Hein. Forcément, il y a la pression du groupe, il y a tout le monde, il y a un désir d'être aimé. On se construit aussi hein, dans la jeunesse. Et on ne veut pas se démarquer, on ne veut pas être différent. Et c'est vrai pour nous aussi adultes. Hein. Vous savez, quand on se tait, on ne dit rien, on ne témoigne pas, voilà, personne ne sait que je suis enfant de Dieu et que j'aime Jésus-Christ. Hein. On cache son christianisme. Mais encore une fois, perdre, c'est pas perdre. Quand on perd, on ne perd pas. La dernière fois, on a parlé de Nicodème. Au départ, ben, il voulait pas qu'on pense de lui, voilà, qui s'intéressait à Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu de nuit. Il s'est caché. Qu'est-ce que les autres juifs allaient penser de lui ? Forcément. Il aurait pu, et certainement, il aurait été méprisé, rejeté, haï. On lui aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? On le rejette tous et toi, tu vas avec lui ? Et c'est quelque chose de difficile d'accepter un regard sur soi différent parce qu'on a choisi Jésus-Christ. Personne n'aime qu'on nous montre du doigt. Personne. C'est normal. On préfère se fondre avec la masse. Mais la masse n'aime pas Jésus. Elle n'aime pas Jésus. Alors parfois, on est tiraillé entre notre amour pour Jésus et la masse, les gens, l'ensemble des personnes. On veut aimer le Seigneur, puis en même temps, on veut quand même garder une bonne image dans ce monde. L'image de quelqu'un qui est comme tout le monde, de quelqu'un qui est dans le courant, qui suit la mode, qui suit toutes ces choses qu'on ne remarque pas. Et vivre pour Jésus, eh ben, c'est sortir de la masse. Forcément, on n'est pas nombreux. Hein. Les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui voilà, témoignent d'une foi ouverte, qui aiment la parole de Dieu, qui la lisent. On n'est pas nombreux. Mais les pertes pour le Seigneur sont jamais réellement des pertes. L'apôtre Paul avait aussi une réputation. Il avait une réputation. Et alors bien sûr, sa réputation aujourd'hui ne compterait pas vraiment, mais à l'époque, sa réputation, c'était quelque chose, hein, ça comptait vraiment. Il était admiré, reconnu, estimé parmi sa société. Il a, malgré cela, accepté de perdre sa réputation. C'était pourtant toute sa fierté. Regardez Philippiens 3, versets 4 à 6 d'abord. Philippiens 3, 4 à 6. Il dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Là, vous voyez tout ce qu'il a accepté de perdre. C'était sa fierté, en fait, hein, d'être ce vrai juif, pharisien zélé, irréprochable. Tous les autres le regardaient en se disant « Waouh, ce Saul de Tarse, hein, c'est quelque chose. » Mais regardez la suite, versets 7 à 9. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'était des gains et il les a regardés comme une perte. Il a accepté de tout mettre ça de côté, de ne plus en faire référence, tout sacrifier, et il est dit, afin de gagner Christ. Il a gagné Christ. Et le Seigneur peut-être nous demande d'accepter de perdre une image que nous avons, que nous renvoyons aux autres, pour lui. Parfois, dans la jeunesse, on est tenté de prendre le même langage que les autres, d'avoir les mêmes attitudes que la masse. J'ai même connu des chrétiens qui juraient de temps en temps au milieu des incroyants. Comme ça, hop, on est comme eux. On est comme eux. Mais ce n'est pas ça, se faire tout à tous. Hein, la parole dit, faites-vous tout à tous. Mais ce n'est pas prendre leur couleur. Hein. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut accepter et aimer même être différent. Sinon, eh bien, qui peut voir que nous sommes au Seigneur ? On a une chienne que l'on promène et donc on rencontre plein d'autres propriétaires de chiens. Et il y a notamment une jeune femme qu'on croise souvent et puis pouf, de temps en temps un mot grossier qui part et clac, clac, clac. Puis on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et la dernière fois, elle dit un mot, le mot habituel, et puis, oh pardon. Comme si elle a senti que ben, chez nous, non, on ne dit pas ça. Donc... Et elle le ressent et elle se dit « Oh mince, il ne faut pas que je dise ça avec ces personnes-là. » Mais si on fait comme eux, si on prend leur couleur, ben, il n'y a pas de différence. On fait partie de la masse. Au milieu d'eux, on garde le même langage, mêmes habitudes. Même pause cigarette, parfois. Hein? Mais est-ce qu'on est enfant de Dieu ? À Jésus-Christ, fils et fille du saint serviteur Jésus, hein? Fils de notre Père, mais attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut accepter de perdre peut-être cette image qu'on a entretenue et témoigner. Témoigner. Paul a perdu sa notoriété parmi ses semblables, mais il a gagné Christ et il a gagné des âmes. Il a gagné énormément pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on préfère ? L'honneur des hommes ou l'honneur que Dieu veut donner. L'honneur des hommes, il est éphémère. Il passe, c'est terminé. On nous oublie. Tandis que l'honneur qui vient de Jésus-Christ, Dieu dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. C'est un beau verset. Ou encore, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. C'est terrible cette parole, hein. Avoir honte de Jésus, ben, le Seigneur, il se dit, mais mince, mon enfant, mon enfant. Parfois, le Seigneur, une autre chose, peut nous demander de perdre notre famille. Non pas forcément la perdre réellement, bien que parfois, ça arrive. Hein, mais il peut nous demander tout au moins de la quitter. C'est ce qui s'est passé pour plusieurs. Notamment, je pensais à Jacques et Jean, fils de Zébédée. Jacques et Jean qui sont devenus des apôtres. Le Seigneur passe et les enrôle avec lui pour partir. Jacques et Jean étaient avec leur père, ils réparaient les filets, ils avaient une entreprise de pêche, ils étaient, j'imagine, comme les doigts de la main, voilà, une entreprise familiale. Et puis d'un seul coup, bon, bah, papa, on y va, quoi. Et hop, on suit Jésus, et le père qui reste là, ben mince alors, on vient de me prendre mes deux fils. C'est dur, hein? Et Dieu parfois nous demande aussi de perdre, de quitter, de lâcher. Parfois c'est partir pour servir. Et c'est un sacrifice de partir. C'est un sacrifice aussi de laisser partir. Marc 10, verset 28 à 31. Marc 10. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. » Et Pierre, là, exprime ce qui était dans le cœur de tous les apôtres. « Voici, Seigneur, nous avons tout quitté. » On a tout lâché comme Jacques et Jean et nous t'avons suivi. Mais la réponse du Seigneur, c'est que celui qui perd, eh bien, il ne perd pas réellement. C'est vrai qu'il y a une déchirure parfois, hein, il y a des déchirures familiales, ça arrive. Mais il dit, celui qui quitte tout, eh bien, il ne va pas perdre et il va être consolé. On lui rendra des frères, des sœurs, des pères, des mères. Une fois par an, il y a la réunion de l'Alliance Baptiste de France. Donc c'est une association dans laquelle notre Église fait partie, qui est une communion entre Églises. Et donc une fois par an, il y a l'AG à Paris. Et donc je dois partir 1, 2, 3 jours. Ben, c'est pas facile. Pas facile pour ma femme, pas facile pour mes enfants. D'habitude, on fait les choses ensemble, hein, et là, je pars tout seul. Et c'est un sacrifice, c'est perdre. On ne peut pas être à deux endroits en même temps, forcément. Donc, il y a quelqu'un qui est lésé quelque part. Mais qui perd, gagne. Maintenant, on peut se dire, tout quitter pour suivre le Seigneur, ça c'est pour le missionnaire, c'est pour l'évangéliste, hein, c'est pour le pasteur, l'ancien, la femme du pasteur. Ah, c'est pour eux, ça. C'est pour eux. Ça, c'est normal. Après tout, c'est leur appel. Hein? C'est leur appel. Ils peuvent tout endurer. Tout supporter, tout perdre. De toute façon, ils sont appelés à ça. Mais moi, je suis un chrétien, quoi. J'ai pas un appel particulier, voilà. Donc, perdre, bah, ça me concerne moins. Mais Seigneur, quand il dit « Suis-moi », est-ce qu'il le dit qu'à un homme? Non, il le dit à tous en fait. Hein. Suis-moi. C'est pour nous tous. On est tous enfants de Dieu. Et Dieu nous appelle tous à perdre notre indépendance. C'est notre appel. L'indépendance, c'est-à-dire je fais ce que je veux, quand je veux. C'est moi qui décide. C'est moi le roi de ma vie. Et vous savez, certains chrétiens continuent à vivre de cette manière. Si j'ai envie de faire une chose, je la fais. Si j'ai pas envie, ben non. Et je dis non, non. Non. Mais on ne peut pas dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on ne le laisse pas décider de notre vie, quand on ne le laisse pas choisir de ce que nous devons faire, personne ne peut dire ça. Alors, il faut dire, je ne suis pas crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est moi qui vis. Voilà. Si c'est Christ qui vit en nous, alors c'est Christ qui doit décider en nous. C'est lui qui doit choisir. Ça signifie que je vais remettre constamment tout ce que je vis, les circonstances, les opportunités. Parfois, c'est bien, hein, on se dit, waouh, super. Au lieu de foncer, je remets à Dieu. Est-ce que tu es sûr, Seigneur? C'est vrai que ça me paraît bien, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour moi? Parfois, on lâche des choses qui... Voilà, on se dit, c'était une bénédiction. La dernière fois, ma mère me propose une voiture super, dernier cri, qui pourrait peut-être rentrer. Voilà, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Donc voilà, on donne pas suite. C'est pas la peine. C'est pas la peine. On va remettre à Dieu les propositions. On va remettre à Dieu les appels à l'aide, hein, les requêtes que l'on nous fait, tous les besoins. Et je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est ça être un disciple. C'est ça être crucifié et laisser Christ vivre en soi. Il y a trop de chrétiens qui ne font pas la volonté du Seigneur. Ils la font sur les grandes lignes. Pas tuer, pas voler, bon, et ça, il y a plein qui le font aussi. Hein. Allez à l'église. Mais après, dans les petits chemins... Là, c'est l'indépendance. C'est moi qui décide. Je ne m'en remets pas au Seigneur. Or, Jésus est à nous et nous sommes à lui. Nous sommes au Seigneur, hein, on le chante. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Mais ça implique de sacrifier son indépendance. On va alors forcément perdre quelque chose. Quand je fais ce que Dieu veut, je ne peux pas faire ce que moi je veux. Ça, c'est sûr. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que quand on commence à faire ce que Dieu veut et qu'on prend l'habitude de faire ce que Dieu veut et tout le temps ce que Dieu veut, après, on a envie de faire ce que Dieu veut. Et on est heureux dans la volonté de Dieu, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est là, ah, ça y est, on commence à être libéré de la chair qui nous retient sans cesse et qui nous tire pour aller par là et par là. On dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Ah, c'est ça. Ouais, j'y vais. Et c'est du bonheur. Du bonheur. Faire ce que Dieu veut. S'être libéré. Mais tant qu'on ne décide pas de vouloir faire sa volonté à chaque instant dans tout ce qu'on choisit, eh bien, on sera toujours tiraillé. Le Seigneur nous dira, mais c'est là le bon chemin. Et puis, ben, nous, voilà, on sera malheureux dans notre recherche de notre propre volonté. Mais c'est ça, un disciple de Jésus. Qui perd, gagne. Qu'est-ce qu'on perd pour Dieu? Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre pour lui? Finalement, c'est quand on parle d'indépendance, c'est perdre sa vie, en fait. Perdre sa vie. C'est ce qu'on a le plus de mal à céder. Perdre sa vie, perdre son temps, perdre son énergie, ses forces, les perdre. Mais ce n'est pas vraiment perdre, c'est les offrir. Hein. Ce n'est pas gaspiller notre vie, notre temps, mais c'est l'offrir au Seigneur. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. On voit encore ce grand principe, hein, qui perd, gagne. Perdre pour Dieu, c'est retrouver, c'est gagner. Alors que celui qui va gagner, eh ben, il finit par perdre. Celui qui veut gagner à tout prix. Notre vie, c'est ce qu'on a de plus précieux. Forcément, c'est nous, c'est ce que nous sommes. Hein. Et pour ne pas perdre ce que nous avons de plus précieux, eh ben, il faut le confier au Seigneur. Il faut lui offrir. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a accepté de perdre sa vie. C'était une jeune femme. Une jeune femme qui a renoncé à vivre pour elle-même. Elle avait le choix. Elle aurait pu penser qu'à elle, rechercher son bonheur, rechercher un mari et attendre des enfants. Mais au lieu de cela, eh bien, elle a choisi de suivre sa belle-mère. C'est Ruth. Vous vous souvenez de cette histoire, hein? Naomi, sa belle-mère... lui a dit, parce qu'elle était veuve, Naomi a perdu ses deux fils, l'un des fils était marié avec Ruth, donc Naomi, n'ayant plus de fils, n'ayant plus de mari, eh bien elle a dit à ses belles-filles, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ?» En fait, elle leur rendait la liberté. Vous êtes veuve, maintenant allez refaire votre vie. Allez-y, profitez. Trouvez un autre homme ou laissez-vous trouver par un autre homme. Soyez heureuse. Et Orpa, l'une des belles filles, elle a dit oui, ça me semble logique et normal. Donc elle est partie et puis elle a probablement trouvé un mari. Et Ruth, elle est restée. Elle a voulu servir sa belle-mère dans l'affliction. Quelle perte, hein ? C'est perdre sa vie. Perdre sa vie, dire non, je vais rester fidèle à ma belle-mère. Qui ferait ça ? Hein ? Qui ferait ça ? Rester fidèle à ma belle-mère et puis la servir. Hein ? Alors elle a dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a renoncé à sa vie. Elle a renoncé à se marier. Elle a renoncé à sa liberté, renoncé à son bonheur facile. Elle a accepté de perdre pour sa belle-mère. Et vous connaissez la suite, puisque quelques temps plus tard, donc ils sont partis en Israël, et quelques temps plus tard, eh bien, en restant dans la famille de Naomi, là, elle rencontre un homme, Boaz, un homme riche, puissant, voilà, qui gentil, qui avait tout à lui apporter. Mais elle n'a pas cherché Boaz. C'est Dieu qui lui a donné. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. On s'occupe du Seigneur, on s'occupe de Dieu, et il finit par nous donner ce que nous, on ne cherchait pas. Il nous donne le meilleur. Dieu sait ce qui est en nous. Il nous connaît. Il voit bien si ça ne va pas. Il voit bien ce qui se passe en nous. Et il nous aime. Il ne faut pas l'oublier. Il nous aime. Est-ce qu'on croit qu'il nous aime ? Maintenant, l'important, c'est de comprendre qu'il faut aussi accepter de perdre pour gagner. Même si on ne cherche pas le gain, mais on accepte de perdre pour le Seigneur. Quand on tient sa vie solidement et qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et qu'on donne un ongle, Dieu n'est pas libre d'agir. On offre parfois si peu aux autres, on consacre si peu sa vie au Seigneur, on ne perd rien et on ne peut rien gagner. Dieu ne nous aime pas moins, mais la parole de Dieu dit bien, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Nos gains sont le résultat de nos pertes, parce qu'on a accepté, on a lâché. Et ça, c'est une constante pour le chrétien. Et c'est valable dans plein de domaines. Perdre sa vie pour le Seigneur, c'est accepter de donner aussi son temps. Le temps. C'est quelque chose qu'on chérit. On le veut pour se distraire, pour se divertir, pour profiter. On dit souvent, j'ai pas le temps. Mais le temps, c'est vous qui le remplissez, hein. Quand des fois, on voit des personnes qui ont fait tant dans une vie, on se dit, mais comment c'est possible ? Mais elles ont choisi ce qu'elles voulaient faire de leur temps. Et on choisit tous, qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps ? Certains le gaspillent, rien ne doit venir contrarier leur bon temps. Tandis que d'autres cherchent à mettre à profit le temps qu'ils ont pour le Seigneur. Et le temps, c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour Dieu et qui est précieux pour nous, hein, si on veut le garder que pour soi-même. Mais on n'imagine pas la valeur du temps que l'on perd pour le Seigneur. Celui qui perd, gagne. Combien il y a de témoignages de ceux qui, en apparence, ont perdu du temps dans la prière. Mais au résultat, ils ont gagné, ils ont été enrichis, parce qu'ils ont intercédé, parce qu'ils ont imploré. Le monde dit, mais c'est perdre votre temps, quoi. Hein. Rester à genoux et demander au Seigneur, et pourtant, non, c'est pas perdre son temps. J'en profite pour vous rappeler que mardi soir, il y a la réunion de prière, 19h30. Mais c'est bien, c'est bien. Vous savez, il y a un parking vide tous les soirs. Peut-être c'est pas très vide le dimanche, mais le mardi soir, c'est vide. Et vous savez, l'engagement dans une réunion de prière, c'est aussi une manière de se consacrer au Seigneur. Hein. C'est perdre sa vie, forcément. Hein. C'est perdre sa vie. Non pas qu'on devient meilleur que les autres parce que, on prie, hein, mais c'est évident que c'est quelque chose de très bon. C'est très bon. Pour soi, ça fait du bien pour les autres, parce qu'on les enrichit en priant pour eux, et pour l'Église, d'une manière générale. C'est accepter de perdre, de donner de son temps, de son énergie, de sa concentration. Hein. C'est sûr, hein. Mais celui qui perd gagne. Paul a dit à Timothée, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. C'est celui qui peine, c'est celui qui se donne, qui perd son temps, qui est le premier à recueillir les fruits. Et les fruits, ils viennent pas comme ça, forcément. Je pense à toutes les mères qui ont prié pendant des heures, des jours, des années pour leurs enfants. Et Dieu a exaucé. Elles ont perdu de leur temps, de leur vie. Elles ont gagné énormément par l'exaucement de leurs prières. Dans un livre sur l'histoire de l'Église, j'ai trouvé un témoignage intéressant d'Augustin. Augustin, c'est un père de l'Église, parmi les premiers chrétiens. Donc lui, il était au 4e siècle. Et c'était un jeune homme débauché, corrompu, dans le péché, jusqu'au cou. Mais sa mère, c'était une femme pieuse. Et Augustin, donc il écrit, et il dit que sa mère était très triste, tandis que lui, il grandissait dans une vie de débauche et de perversion. Et il écrit, mais un beau jour, à 32 ans, donc il écrit, il était tombé dans une détresse de l'âme, il dit, « Je me jetais à terre sous un certain figuier et donnais libre cours à mes larmes. Je m'écriais dans ma douleur, jusqu'à quand ? Demain, et encore demain, pourquoi pas maintenant ? Pourquoi cette heure ne marquerait-elle pas la fin de ma vie impure ? Tout en parlant, je versais des larmes amères de repentance, quand soudain, j'entendis la voix d'un garçon ou d'une jeune fille, je ne sais pas, venant d'une maison voisine et répétant souvent, « Prends et lis, prends et lis !» Ces paroles produisirent en moi un changement immédiat. Je me demandais très sérieusement s'il existait un jeu quelconque où les enfants chantaient ces trois mots, mais je ne pus me rappeler les avoir jamais entendus. Alors, luttant contre mes larmes, je me levai, convaincu que j'avais ouï un commandement venant du ciel, d'ouvrir le livre et d'y lire le premier chapitre qui me tomberait sous les yeux. Je le saisis, l'ouvris et lus en silence le paragraphe suivant. « Marchons, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je ne lus rien de plus et ce n'était pas nécessaire car instantanément, terminant la phrase, par une lumière versant l'assurance en mon cœur, toute l'angoisse du doute s'évanouit. » C'était sa conversion. Il a été touché par la parole de Dieu. Ensuite, il dit, « Cette conversion fut une grande joie et non un étonnement pour ma mère qui mourut en paix un an plus tard durant leur voyage de retour en Afrique. » Elle avait sacrifié, elle avait donné de son temps, perdu sa vie. Ses forces même à demander, à implorer. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on implore, on supplie. Et quand on supplie, on imagine ce que le Seigneur a vécu. Quand il dit que des grumeaux de sang coulaient, hein, c'était une supplication ultime. Eh bien, avez-vous déjà supplié pour quelqu'un ? Oui. Hein. Quand on aime, on est prêt à supplier. Et ça fait partie de la prière, la supplication. Et Dieu entend. Dieu entend, Dieu répond. Il faut accepter de perdre. C'est indispensable. Si on n'est pas prêt à perdre notre vie, à l'offrir, à sacrifier notre temps, on ne peut pas gagner. Qui perd, gagne. Un jour, je parlais avec un frère sur la prière et je lui demandais, si c'était il y a très longtemps, hein, s'il priait pour sa famille. Il m'a dit, oui, je dis, Seigneur, bénis ma famille. Parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il disait. Seigneur, bénis ma famille. C'est un peu léger, hein. Et il faut demander avec, demander des choses précises. Accepter de perdre. Je vais conclure par un verset, c'est Jean 12, verset 24. un verset que vous connaissez, mais tellement important. Jean 12, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le grain de blé, il doit tomber en terre, il doit se déchirer, se décharner, il doit perdre son enveloppe pour donner naissance à beaucoup de fruits. C'est indispensable. Il perd, hein, forcément, il sacrifie, hein, mais il engendre la vie. Il engendre d'autres grains. Qu'est-ce que l'on perd pour Dieu? Qu'est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à perdre pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? On a tout à gagner. On va chanter.